Merci beaucoup, chers modérateurs, chers membres de l'Assemblée. Merci beaucoup. Je remercie l'organisation pour leur aimable invitation. Et effectivement, on est deux, puisque la biologie délocalisée, c'est avant tout un binôme. Donc, moi, je suis Jérémy Guénézan, je suis MCUPH de médecine d'urgence à Poitiers.
Pierre Dupuis, responsable de l'organisation de la biologie délocalisée au CHU de Poitiers. Je suis PH en biochimie.
Donc c'est un sujet bien sûr brûlant d'actualité, qui est le BMD pour optimiser le parcours de soins des patients en milieu hospitalier, victimes, en tout cas qui ont des douleurs thoraciques. Donc Pierre va commencer avec quelques données poitevine et puis j'enchaînerai. Merci beaucoup.
Pour présenter rapidement l'organisation de la biologie délocalisée concernant la détermination de la troponine sur le CHU de Poitiers. Donc le CHU de Poitiers est organisé autour de plusieurs sites, le site central Poitiers, puis des sites périphériques, Boudin, Châtellerault, Montmorillon, qui sont distants environ de 30 à 60 minutes du site central, avec au sein de ces différents sites plusieurs configurations au niveau du laboratoire. Sur le site de Poitiers et Châtellerault, un laboratoire 24-24 avec une urgence, service d'urgence la nuit. Sur le site de Montmorillon, un laboratoire 12-24, donc ouvert la journée, le recours la nuit à la biologie délocalisée. Et le site le plus éloigné, le site de Loudun, à une heure de Poitiers, où il n'y a pas de laboratoire et uniquement recours à la biologie délocalisée et des navettes vers le site central. Concernant la détermination de la troponine, donc nous avons installé, il y a maintenant un peu plus d'un an, sur les sites de Montmorillon et de Loudun, une solution détermination par des automates Atelica VTLI, donc deux sur chaque site, pour pouvoir répondre et au SMUR et au laboratoire. Sur le site de Poitiers, quatre automates qui viennent d'être installés la semaine dernière au niveau du SMUR, des urgences générales et des urgences cardiologiques pour pouvoir cycler et déterminer la troponine par la même technologie lorsqu'un patient est véhiculé directement de son domicile vers les urgences cardiologiques. Voilà, et sur Châtellerault, c'est en cours d'installation, même chose, des Atelica au niveau du SMUR et des urgences. Alors tout ça, pourquoi? Là, on vous livre nos délais de rendu de troponine. Ça, ce sont les données du mois d'avril. On le suit régulièrement tous les mois, nos délais de traitement de troponine. Alors ici, tout service confondu. Donc nous avons environ, nous rendons d'un point de vue traitement analytique 90% de nos tests en 68 minutes. C'est bien, c'est pas bien, mais bon, on n'arrive pas à faire beaucoup mieux. Quand on intègre la validation biologique, nous sommes en validation 24-24, on peut considérer qu'on peut rajouter 10 minutes en moyenne. Donc nous sommes voilà, en environ 75 minutes, 78 minutes pour rendre un résultat de troponine. Certes, dans ces valeurs, il y a tous les ajouts qui sont faits, donc qui viennent un petit peu perturber ces délais, mais très peu. Donc effectivement, pour nos urgentistes, un délai de rendu de troponine en 8 minutes, ça fait rêver tout le monde. Donc, mais après, voilà, Jérémy va nous expliquer dans quelles conditions il envisage de faire tous ces tests.
Merci beaucoup. Alors, j'aime bien commencer mes topos par une petite image. Je me suis rappelé de cette photo qui est issue d'un journal local, hein, puisqu'on est en Bretagne. C'était les urgences de Rennes il y a maintenant quelques années. Et c'est vrai que quand on entend parler de nous dans la presse, quand je dis nous, c'est les urgentistes, c'est rarement pour nous féliciter, mais c'est pour se demander pourquoi on attend autant chez nous, pourquoi on passe des heures avant de voir un médecin. Bah, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et bien sûr, c'est un problème complexe. Donc forcément, il n'y a pas de solution simple. Mais je pense que pour certaines catégories de patients, la biologie délocalisée doit nous permettre d'améliorer les choses et je pense que les patients qui sont victimes de douleurs thoraciques ou suspects de SA sont un exemple assez parlant à l'heure actuelle. D'abord parce que c'est fréquent, 600 000 consultations par an, ça vous parle peut-être pas beaucoup, ça représente à peu près 10% de nos passages aux urgences en moyenne, avec des patients qui d'un côté ont une cause coronarienne et qui vont gagner à aller le plus rapidement possible en cardiologie lorsqu'ils passent par nos urgences, et des patients qui sont sans diagnostic et qui vont là aussi pouvoir être managés plus rapidement de manière sécuritaire. Alors les recommandations internationales, en l'occurrence européennes, nous poussent à aller toujours un petit peu plus vite dans le management de ces patients. Vous savez que les recommandations de l'ESC de 2020, dans la prise en charge des patients suspects de NSTEMI, nous incite à faire des cycles courts, 0-1 heure, avec le grade le plus fort possible pour les recommandations, et il dégrade un petit peu le 0-2 heures avec avec un niveau de preuve moins important. Donc les recommandations nous poussent à aller toujours plus vite, la littérature internationale nous pousse à aller toujours plus vite. Dans ce schéma qui est issu d'un état de l'art de Dawson, vous voyez qu'en 1996, en moyenne, on passait entre 10 et 40 heures dans les services d'urgence et cardiologie après une douleur thoracique. En 2016, 20 ans plus tard, les cycles sont extrêmement courts, on parle de 0-1 heure, 0-2 heures. Les Australiens ont même essayé de faire du 0-30 minutes avec plutôt du succès. Donc c'est toujours aller plus vite, mais à condition que ça soit sécuritaire. Les études sur le sujet ont montré qu'effectivement les cycles courts étaient sécuritaires. Vous voyez ici à l'écran une étude de Stoyanov qui a été publiée dans l'European Heart Journal en 2020. Ils sont intéressés à passer de 0,3 heures à 0,1 heure sur 2500 patients et voir si c'était sécuritaire. Donc vous avez ici à l'écran la mortalité, en abscisse le temps depuis le passage aux urgences en jour et en ordonnée la probabilité cumulée de mortalité. Vous voyez que dans le petit zoom qui est en haut à droite, les patients qui meurent, c'est principalement les patients qui étaient a priori graves, ceux qui étaient en reline, c'est-à-dire les patients qui avaient le plus fort risque de NSTMI, un peu les patients en jaune, les patients en zone d'observation, et en bleu, les patients qui rentrent à la maison, même en passant à des cycles courts, c'est plutôt sécuritaire. Un taux de mortalité à 0,08%. Donc première chose, c'est sécuritaire. Et deuxième chose, ça nous permet de gagner du temps. Et vous savez que le temps passé aux urgences, pour l'urgentiste, c'est un de ses dadas. C'est presque une obsession. Et en l'occurrence, on est passé de à peu près 5 heures en médiane à peu près 3 heures en passant des cycles 0,3 heures au cycle 0,1 heure. Donc ça, c'est avec de la troponine de laboratoire, avec des troponines qui étaient faites au laboratoire. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut utiliser à l'heure actuelle, dans nos urgences, des cycles courts qui sont sécuritaires donc et qui nous font gagner du temps avec de la troponine de laboratoire. J'ai pas la réponse pour toute l'Assemblée, pour toute la France. Nous, on s'est posé la question, passer à du 0,1 heure avec la troponine de laboratoire, ça nous semblait compliqué. Vous connaissez mieux que moi comment ça se passe une fois que la troponine elle est prélevée, il y a le temps d'acheminement, la phase préanalytique, il y a la phase de l'analyse, le temps de disponibilité médicale et vous, comme nous, on fait de plus en plus de choses et on a de moins en moins de temps à consacrer à chaque tâche. Bref, en moyenne, j'ai fait une fourchette large, 45-120 minutes pour avoir des chiffres plus exacts. Il faudra effectivement aller voir le travail de Camille sur le poster. Mais globalement, on va avoir du mal à être en moins d'une heure. Forcément, la biologie délocalisée, c'est attractif. Une phase de prélèvement, on passe tout de suite sur la phase de rendu. On est, nous, en l'occurrence, puisqu'on travaille avec le VA Telica sur un rendu en 8 minutes, et la validation, qui est importante, parce qu'il faut discuter quand il y a eu des problèmes, etc., va venir après. Donc globalement, si on passe de la biologie pour certains patients au laboratoire à de la biologie délocalisée, on va pouvoir, à mon sens, passer sur des algorithmes courts parce qu'on va pouvoir s'affranchir de plusieurs limites importantes. La première, c'est la maîtrise du temps. Vous savez que pour les algorithmes courts 0-1 heure, les caractéristiques diagnostiques de ces algorithmes courts baissent fortement du moment où la deuxième troponine est dosée à plus de 10 minutes de la première. Donc il faut pouvoir maîtriser le temps. La deuxième, c'est doser un T2, une troponine 2, sans avoir une troponine 1. Intellectuellement, ça ne me plaît pas. Comment je peux doser une deuxième troponine si je n'ai pas le résultat de la première, alors que peut-être que la première me permettra de finalement renvoyer le patient à la maison? Et la deuxième chose, c'est le rendu quantitatif. Ça dépend aussi de vos capacités au laboratoire. Est-ce que vous pouvez rendre du quantitatif tout le temps? Chez nous, ce n'était pas possible sur certaines valeurs. Donc forcément, on en vient à la biologie délocalisée. Alors comme je dis souvent, et je ne dis pas ça promis parce que je suis là aujourd'hui devant beaucoup de biologistes, c'est avant tout un partenariat, c'est un binôme entre un clinicien et un biologiste. On doit se poser les bonnes questions. C'est la biologie délocalisée pour répondre à des indications cliniques. Là, en l'occurrence, c'est est-ce qu'il faut passer à la biologie délocalisée pour faire des algorithmes courts. C'est comment on s'organise pour la démarche qualité et le suivi. Vous savez que les urgentistes ne sont pas les meilleurs pour ça. Malgré tout, ce n'est pas quelque chose qui doit systématiquement reposer sur le laboratoire. On doit pouvoir simplifier la vie de tout le monde. Et puis, c'est l'organisation hospitalière. Ce n'est pas les urgences au milieu de l'hôpital avec le laboratoire, mais c'est si je fais une troponine en point of care en préhospitalier, comment ça se passe une fois que le patient arrive en intra-hospitalier? Il faut qu'il puisse être suivi avec la même méthode. Pareil, si je transfère mon patient des urgences vers la cardiologie. Donc ce binôme clinicien-biologiste, il est, à mon sens, à même de répondre à plusieurs problématiques qu'on a avec ces patients de douleurs thoraciques. C'est bien sûr l'overcrowding, c'est des problématiques de territoire dont Pierre a commencé à parler, et c'est des problématiques d'interruption de tâches. D'abord, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il faut se le dire, et vous le savez, les troponines en point of care ont beaucoup évolué et sont aujourd'hui assez fiables, voire très fiables. Vous voyez cette étude de Sorensen en 2019, ils se sont intéressés sur 1279 patients à comparer de la troponine qui était faite au laboratoire, c'est la courbe bleue, à celle qui était faite en rouge, c'est du point of care, et vous voyez que les aires sous la courbe de l'une et de l'autre sont complètement superposables. Donc forcément, des algorithmes 0-1 heure qui marchaient avec des troponines de laboratoire, on en arrive progressivement avec des algorithmes 0-1 heure faits à partir de matériel de point of care, d'appareils de point of care. Là, vous voyez l'étude de Cochelin en 2024. Sur 1532 patients, ils ont cherché à valider leur algorithme 0-1 heure sur une population qui avait à peu près 13% de NSTMI. Donc c'est une population assez classique d'intra-hospitalier. Et vous voyez, donc ce schéma, vous le verrez sur à peu près toutes les études qui s'intéressent à la validation de ces algorithmes courts. En vert, les patients en roll-out, c'était 55% de la population qui vont pouvoir être envoyés à la maison soit après une première troponine, soit après un cycle court négatif. Valeur prédictive négative, 100%. On retrouve notre critère de sécurité. On peut utiliser ces algorithmes courts en étant sécuritaire. La deuxième chose, c'est le roll-in, c'est-à-dire les patients qui étaient envoyés en cardiologie, voire en salle de cathétérisme le plus rapidement possible, 13% de la population avec une valeur prédictive positive de 75%. Donc on trie bien, que ça soit vers l'extérieur, le retour à domicile, ou vers la salle de cathétérisme ou les soins intensifs cardiologiques. Et c'est d'autant plus attractif que ce qu'on manque aux urgences, entre autres, c'est aussi de personnel paramédical, c'est de main. Et avec ces appareils, avec certains de ces appareils, on peut, plutôt que de faire systématiquement une ponction veineuse, faire pourquoi pas du capillaire. Là, vous voyez une étude de Brunen en 2022. Sur 152 patients, ils ont fait du 0-1 heure. Ils ont comparé les résultats en fonction si c'était du sang total, du plasma ou du capillaire. Et vous voyez que les coefficients de corrélation sont excellents puisqu'on a, on est à plus de 0,995 systématiquement. Donc, en plus, on peut probablement gagner du temps sur le management du personnel paramédical et sa charge de travail qui est extrêmement importante avec des prélèvements capillaires qui vont nous faire gagner du temps. Donc ça, c'était la première chose, c'est je pense que la biologie délocalisée permet de rentrer dans les algorithmes courts dans nos urgences à l'heure actuelle. La deuxième chose, c'est les problématiques de territoire. Je ne reviens pas sur l'organisation, Pierre l'a très bien décrite. Il faut savoir que aussi bien en biologie qu'en médecine d'urgence, on est une équipe territoriale. C'est-à-dire que si vous allez consulter un jour à Loudun, Châtellerault, Montmorillon, vous verrez un médecin urgentiste de Poitiers et vice-versa. Forcément, dans un hôpital comme Loudun, que je connais bien, si à l'heure actuelle on n'avait pas de biologie délocalisée, on n'aurait plus de biologie. Et sans biologie, il n'y a plus de service d'urgence. À l'heure actuelle, on ne peut pas traiter des patients sans avoir accès à la biologie. On ne peut pas fonctionner avec des navettes qui feraient une heure pour aller à Poitiers systématiquement. Et vous n'avez pas la possibilité de mettre des laboratoires dans ces centres-là parce que l'activité n'est pas suffisamment importante. Donc la biologie délocalisée, c'est aussi un moyen d'apporter une offre de soins partout sur le territoire, même dans les endroits les plus reculés. Alors, juste un tout petit mot promis sur le préhospitalier, juste une slide, je ne pouvais pas m'en empêcher. Vous savez que ces appareils-là qui sont mobilisables peuvent aussi être emmenés dans nos camions de SMUR lorsqu'on part en intervention. Dawson avait fait un état de l'art en 2022 dans le Jacques, parler effectivement de la troponine en préhospitalier pour améliorer les parcours de soins. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de faire également à Poitiers. On pense que le fait d'introduire de la troponine en préhospitalier va de nous permettre de mieux trier les patients et de mieux les orienter. Je vous ai dit qu'il y avait un laboratoire H24 à Poitiers, c'est le vaisseau mère, mais il y a aussi le seul centre de coronarographie du département. Donc si j'oriente mal mon patient en préhospitalier et que je le mets à Châtellerault, à Loudun, à Montmorillon, alors qu'il avait besoin rapidement d'une coronarographie, je lui ai fait perdre du temps, je ne lui ai pas rendu service. La troponine doit pouvoir probablement aider à ça, et pour l'intra-hospitalier, j'y reviens, qu'est-ce qui pourrait permettre d'améliorer la prise en charge des douleurs thoraciques et des SA en intra-hospitalier? C'est l'intelligence artificielle pour les ECG, c'est pas le sujet du jour, mais c'est aussi le point of care et pourquoi pas les nouveaux biomarqueurs, mais j'en ai pas connaissance. Alors la troisième chose, et c'est issu d'un article qu'avait fait M. Osfater dans les Annales françaises de médecine d'urgence en 2016, la biologie délocalisée doit nous permettre de également mieux réfléchir. Là, vous voyez le parcours classique d'un patient qui va rentrer aux urgences. Il va voir un médecin qui va l'examiner, faire des hypothèses. Pour confirmer et infirmer ces hypothèses, il va avoir besoin de biomarqueurs. il va prescrire ses biomarqueurs, c'est le cerveau 1. Il va les recevoir entre 1 et 2 heures après. Il sera passé plein de choses entre les deux. Et il y a une déconnexion, une altération du processus diagnostique et réflexif normal entre le cerveau 1 qui a fait les hypothèses et le cerveau 2 qui va répondre à ces hypothèses. Peut-être que la biologie délocalisée, dans certaines situations, en réconciliant ce cerveau 1 et ce cerveau 2, pourra améliorer nos processus réflexifs. Donc bien sûr, alors moi j'ai pas parlé de mon conflit d'intérêt, alors j'ai probablement un conflit d'intérêt intellectuel. Je pense que la troponine en point of care, ça doit permettre de mieux prendre en charge les douleurs thoraciques en intra et en extra-hospitalier. Ça m'empêche pas d'avoir des questions auxquelles il faudra également répondre. La première, c'est d'un point de vue médico-économique. On sait que ces troponines, elles sont plus chères. Est-ce que c'est acceptable en termes de coût pour la santé par rapport aux bénéfices que l'on va en retirer ? Les Australiens ont commencé à y réfléchir dans leur système de soins préhospitaliers. C'est un système non médicalisé. Ils ont modélisé 3 systèmes de soins. Système de soins existant, système de soins avec troponine, système de soins avec troponine et laissé sur place. Ils ont fait tourner ces modèles avec des données soit issues de la littérature, mais aussi issues de leur système de soins préhospitaliers avec près de 190 000 prises en charge de douleurs thoraciques par leurs ambulances. Et donc, ils ont modélisé que la troponine, chez eux, en point of care, permettrait de gagner 6 millions juste en orientant mieux les patients, 6 millions par an, et 42 millions si, en plus de mieux orienter les patients, on faisait du laisser sur place. C'est-à-dire que le patient ne vient pas à l'hôpital. Et donc, c'est assez bien fait. Ils ont pris en compte les coûts d'achat, d'entretien, de renouvellement du matériel tous les 5 ans, de formation du personnel par des sessions de 4 heures. Et c'est assez intéressant. Il faudra que l'on mène ces travaux en intra et en intra-hospitalier chez nous. La deuxième chose, c'est les modalités de cycle. Je vous ai beaucoup parlé des 0-1 heure dont les recommandations européennes nous tendent à aller vers. Il y a un article, en l'occurrence, que je cite, parce qu'il faut en parler, de Ashburn en 2023, qui a dit qu'il se posait des questions sur la valeur prédictive négative de cycle. Alors, c'est des Américains qui ont pris l'algorithme européen et qui l'ont mis sur leur cohorte à eux de patients américains. Pas forcément en plus avec les mêmes seuils pour les seuils de rollout. Et donc, c'est la première limite méthodologique. Et la deuxième, c'est que je vous ai dit qu'il fallait que la deuxième troponine soit dosée très près de 1 heure, qu'on faisait du 0 à 1 heure. Et eux, ils ont toléré des troponines qui allaient jusqu'à 30 minutes après le délai souhaité. Et donc, ils ont retrouvé, seulement chez les patients qui avaient des antécédents de coronaropathie, que la valeur prédictive négative était de 97,8%. Cette étude, je la cite, je pense qu'elle a quand même pas mal de limites méthodologiques. Il faudra développer notre propre travaux pour décider entre le H0 H1 et le H0 H2. Une autre interrogation, je vous ai montré cette photo pour commencer, et je vous la montre presque pour finir. Est-ce que dans un hôpital qui ressemble à ça le matin, parfois le midi, parfois le soir, parfois la nuit, on va être capable d'introduire une charge de travail supplémentaire pour nos équipes paramédicales ? Je pense que oui, mais j'en suis pas certain. Il faudra une fois de plus qu'on le prouve. Et j'aurais pu en rajouter un autre, c'est les indications à ces troponines en point of care. Elles n'ont pas pour vocation de remplacer toutes les troponines qu'on l'on fait au laboratoire actuellement, mais d'être sur des populations ciblées pour lesquelles le fait de faire du point of care va nous permettre de gagner du temps. Et donc ces populations-là, il faut également aussi les définir de manière collective. Bref, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, les messages en tout cas, c'est que je pense que la troponine en point of care, c'est vraiment l'outil qui va nous permettre d'introduire les cycles courts dans nos services d'urgence, en se passant des limites que j'ai citées, en allant outre les limites que j'ai citées. Peut-être que ces limites-là que moi j'ai relevées ne sont pas les limites de vos centres et que ça ne sera pas nécessaire, mais en tout cas ce sont les miennes, de répondre à des problématiques de territoire, et possiblement aussi des problématiques de processus réflexifs qui sont très altérés aux urgences, mais il y a encore pas mal de questions, ce qui rend le futur, malgré tout, assez excitant.